la dernière fois, on avait balayé le paysage spirituel et religieux de l'homme, donc on était assez extérieur au christianisme et aux catholiques. Et aujourd'hui, en fait, on va voir ce que la Bible nous dit de Dieu. Alors, en fait, plus particulièrement aujourd'hui, on va se focaliser sur l'Ancien Testament. Donc, en trois quarts d'heure, on va faire tout l'Ancien Testament. Voilà, c'est le programme. Donc, en fait, l'Ancien Testament, il nous présente Dieu très différemment des autres religions. Il essaye d'éviter les anthropomorphismes, mais pas tout le temps. Puisqu'il y en a un certain nombre quand même, mais qui sont assumés, mais il l'a fait à différents moments quand les choses étaient déjà plus ancrées, qu'il y avait moins de risques d'assimilation avec les autres.
Donc c'est celui-ci.
Ouais, c'est celui de la dernière. Voilà, donc on en verra un certain nombre, mais pas tant que ça, parce que je vais me focaliser surtout sur les différences par rapport aux autres religions. Enfin, qu'est-ce qu'il est l'unicité, l'originalité du Dieu de la Bible. Et puis l'Ancien Testament, il faut bien voir que ce n'est pas du tout un traité spéculatif. Donc on est vraiment dans une histoire qui raconte des événements qui sont réfléchis et pensés et médités quelque part comme des actes de Dieu, ces actes révélant leur auteur. Donc ce n'est pas du tout ni un traité philosophique, ni de la poésie, ni de la littérature. C'est vraiment, ça raconte une histoire assez... tout un parcours d'un peuple et de son Dieu. Voilà, donc c'est un Dieu qui parle, qui agit, qui se communique à cette occasion. Alors clairement, dans l'Ancien Testament, mais même après, enfin dans le Nouveau Testament, on verra ça plus tard, il y a des emprunts à la religion, aux religions parallèles. Donc on verra pas mal de choses. Par exemple, le déluge, je n'en avais peut-être parlé déjà la dernière fois, mais le déluge, c'est dans toutes les religions, il y a une histoire de déluge et avec un dieu qui sauve d'un déluge. Donc ça, typiquement, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'Ancien Testament, pas spécifique au dieu de la Bible. Mais il y a des choses, par contre, qui sont beaucoup plus originales, avec une vraie prise de distance par rapport à ce qui se faisait. Et donc, on va plus concrètement se focaliser là-dessus, avec trois grands thèmes. Le dieu personnel. Quand on dit personnel, c'est avec qui on peut interagir, qui est à la fois personnel, qui peut être un pôle vis-à-vis en relation avec l'homme. Le Dieu tout autre et le Dieu qui vient demeurer chez nous. Alors, on va commencer par le Dieu personnel. Donc, le Dieu personnel, d'abord, la première partie de l'Ancien Testament, c'est vraiment le Dieu d'Abraham. Voilà. Et d'ailleurs, après, ce nom-là, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va durer pendant toute une grande partie de l'Ancien Testament et même à l'époque de Jésus. Voilà, on pouvait se donner la bénédiction. Au nom d'Abraham. Donc c'est vraiment, c'est comme ça qu'il se révèle d'abord, c'est le Dieu d'Abraham. Alors Abraham, en fait, il l'appelle avec un nom qui n'est pas du tout spécifique, qui est El, qui en fait était un dieu, une sorte de dieu un peu générique, enfin voilà, un peu lointain, pas vraiment d'attributs, donc une sorte de dieu, voilà, un peu ouais, générique, quoi, avec, qui était souvent associé avec d'autres typologies de divinités, notamment autour de la... de divinité sur la fécondité agricole. Voilà, il était de temps en temps associé au dieu de l'orage, mais même pas forcément exclusivement, et parfois au dieu cosmique. Donc Abraham, il l'appelle El, donc il lui reprend quelque chose qui existe, sauf qu'il en fait le dieu personnel, donc un dieu très particulier, son dieu à lui. Alors en fait, déjà, ce dieu personnel se manifeste parce que Dieu parle à Abraham, donc il intervient dans sa vie. Donc on a régulièrement, donc exemple Genèse 12:1, le Seigneur dit à Abraham. Donc on a une vraie familiarité entre eux, mais c'est tout le temps. On a une vraie familiarité entre Dieu et Abraham. Abraham se confie à lui confie ses peines. J'aurai pas de descendance, voilà par exemple tout ce thème-là. Dieu multiplie ses alliances avec lui en lui disant, mais voilà, je te fais des promesses. Et donc il y a tout ce continuel discours entre Abraham et Dieu. Et ils vont même jusqu'à ils prennent un repas ensemble, voilà, donc il y a vraiment ce côté, c'est une grande proximité entre Dieu et Abraham, entre elle et Abraham, et Dieu le traite en ami. Il y a une phrase très jolie de Genèse 18-17: est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? C'est au moment où il va détruire Sodome et Gomorre, et donc voilà, c'est Dieu qui parle comme ça, et voilà, est-ce que je vais cacher, comme si c'était son meilleur ami, et donc il ne peut pas lui cacher les choses qu'il compte faire, son dessein. Donc c'est vraiment une très très grande proximité avec les deux. Et tout ce discours autour de Sodome et Gomorre, avec Abraham qui négocie, mais s'il y en a 40, s'il y en a 20, etc. C'est vraiment une négociation entre presque à parité, quoi. Enfin, presque. pas tout à fait quand même, Abraham est bien devant le Dieu, mais il y a ce côté très grande intimité et proximité avec cette négociation, oserais-je encore dire, s'il n'y en a que cinq. Donc Abraham, il lui donne plusieurs noms. On verra l'importance du nom pour les peuples. Alors là, ce n'est pas spécifique au peuple hébreu, hein, mais c'est tous ces peuples sémitiques et du Moyen-Âge. Le nom révèle la personne. Donc c'est toujours très très important la partie nom. Et donc Abraham, il met, donc il l'appelle El comme c'est un peu générique, mais il donne des tas d'attributs pour le personnaliser, expliciter la relation. Donc il y a El Elyon, qui est le Dieu Seigneur au-delà des cieux, très très haut. Donc ça, c'est quand il fait une stèle aux chaînes de membrée. Il y a El Roy, c'est le Dieu qui me voit. Donc là, on a à la fois la servante Agar qui s'enfuit au désert et Dieu la rattrape entre guillemets en lui disant non, tu retournes auprès de Sarah, même si elle est désagréable avec toi. Et au moment du sacrifice d'Isaac, il y a aussi ce El Roy, Dieu qui me voit. Il y a El Olam, Dieu qui dure. Donc c'est qui les éternités. Et puis on a le El Shaddai, qui est le Dieu de la montagne. Clairement, dans l'Ancien Testament, Abraham et Moïse et tout, beaucoup, la rencontre avec Dieu se fait souvent sur la montagne, plus près des cieux. Et aussi un lieu un peu particulier. Donc il y a tous ces noms qui connotent le El, qui est un peu générique, pour dire vraiment c'est mon Dieu et je le personnalise. Et à chaque stèle, voilà, il donne un nom particulier. Donc c'est vraiment un cheminement, un compagnonnage entre Abraham et Dieu. Donc on a, et ce dieu d'Abraham est très différent des dieux de l'époque, enfin des autres divinités. On n'a pas du tout de mélange avec tous les cultes de la fécondité, même si, concernant Abraham, il y a cette promesse d'avoir un fils et une descendance, d'avoir aussi une terre, mais ce n'est pas du tout de l'ordre de la fécondité, ce n'est pas du tout dans ce registre-là que ça se passe, c'est dans le registre de la promesse. Et donc le dieu, c'est celui qui promet et qui tient ses promesses. Voilà. Et c'est en ça qu'on voit la bénédiction. Donc on est assez loin des divinités de la fécondité ou de celles qui défendent les territoires et les choses comme ça. Après, un deuxième aspect de ce Dieu personnel, c'est Dieu d'un peuple. Donc c'est non seulement Dieu d'Abraham, mais c'est le Dieu qui se choisit un peuple. Alors c'est symptomatique, il prend un peuple de fuyards, à dessein utilisé. Concrètement, c'est des gens qui ont fui l'Égypte. Donc voilà, il prend un peuple fuyard. Il y avait des grandes civilisations à l'époque, l'Égypte, mais aussi après les Babyloniens. Enfin, il y a plein de grandes civilisations dans ce monde-là. Et en fait, Dieu, il choisit un peuple qui n'est rien. Donc une bande de personnes qui pourront... parce que justement, dans les grandes civilisations, il y a ces schémas qui se reproduisent. Et donc, il ne pourrait pas y avoir cette empreinte de Dieu sur son peuple. Il le veut façonner comme son dessein le veut, comme sa volonté le veut. Et du coup, il ne prend pas un grand peuple, il prend des fuyards. Voilà. Donc, on n'est pas sur un dieu ni d'une ville, ni d'un territoire, mais d'un peuple. C'est vraiment... il est lié aux hommes. Voilà. Il a un dessein sur ce peuple, qui n'est pas un peuple diffus, puisque dedans, on voit bien qu'il y a des personnages, Abraham, Moïse. Donc, c'est un peuple avec des vrais individus. Et en même temps, c'est tout un peuple. Moïse, à ce titre-là, est assez important parce qu'il est vraiment le messager, il est l'intermédiaire entre, comme le représentant, le héros, H-E-R-A-U-T, du peuple devant Dieu. Donc Dieu a un dessein sur ce peuple, en fait il l'accompagne, il fait alliance, il s'intéresse à ce qu'il est, il intervient, il a de la mémoire, il reste fidèle, donc ça c'est toute l'histoire notamment de l'Exode. Et il veut vraiment, il s'intéresse à ce qu'est le peuple. Et ça, c'est très très différent des cultes où globalement on rendait un culte à un dieu pour obtenir ses faveurs, pour qu'il reste tranquille. Mais le dieu ne s'intéresse absolument pas à ce que fait l'homme, etc. Donc là, c'est la première fois que le dieu s'intéresse à l'homme et veut savoir qu'est-ce qui se passe, essaye de le. Donc s'intéresse vraiment à lui comme quelqu'un. Donc c'est la très jolie phrase de Exode 3:7 où quand il est dans le buisson ardent. Quand il voit Moïse, il dit « j'ai vu la misère de mon peuple ». Avec cette insistance « j'ai vu ». Donc il y a vraiment ce côté, il est attentif, il a suivi ce peuple, il l'a vu, il a vraiment, il y a une sorte de compassion pour ce peuple qui est esclave chez les Égyptiens. Et il a un projet pour son peuple, donc voilà, c'est, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et c'est quand même assez symptomatique parce qu'il le fait triompher de la plus grande puissance de l'époque. Ouais, les Égyptiens, c'était les plus grands. Et c'est Dieu qui va faire que cette bande de fuyards, ben, c'est, cette bande d'esclaves, va être sauvée et, parce que Dieu combat pour lui. Et ce n'est pas une victoire guerrière, donc ça aussi c'est très différent de, des dieux classiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma de guerre, on est dans un schéma très particulier, puisqu'en fait il demande à ce peuple d'abandonner l'Égypte, qui est quand même une terre fertile avec des tas de choses, pour aller dans le désert, et il va le faire non pas en combattant, mais en envoyant les 12 plaies et ensuite en, avec l'eau. Donc on n'est pas du tout dans un combat classique, même si Pharaon est parti avec ses chars et ses guerriers, il n'y a pas eu de combat. C'est pas de cet ordre-là. Donc on est vraiment dans un dessin très particulier et un accompagnement de Dieu dans le temps. Alors la troisième partie sur cette Dieu personnel, c'est l'alliance qui est structurée par Dieu. Donc en fait, Dieu, il n'a pas d'exigence quand il rencontre Moïse, quand il discute avec lui, il ne dit pas, voilà, qu'est-ce que j'attends moi? En fait, il a une exigence sur le peuple. Donc c'est très intéressant, c'est les décalogues. Donc décalogue, on en a plusieurs. On a d'abord deux fois le décalogue moral, sous des formes assez proches, avec les 10 commandements. Donc celui qu'on connaît le plus. Celui qu'on connaît le plus, c'est Exode 20, je crois. Enfin, je confonds toujours les deux, donc je ne suis pas très sûre. Deutéronome 5. Oui, il y a toutes les...
Où donc vous êtes?
Ah, je suis là.
Ah, d'accord, excusez-moi, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc là, c'est les deux décalogues plus moraux, en fait, qui sont sur... Alors, ils commencent toujours avec « Tu n'auras qu'un seul Dieu » et... Et tu ne rendras pas culte aux idoles. Mais ensuite, c'est sur des sujets moraux comme tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Donc on est vraiment sur un aspect moral. Et on a aussi un décalogue cultuel plus ancien qui lui est beaucoup plus tourné sur le culte, même s'il imbrique aussi un petit peu des choses de morale, en Exode 34. Donc je ne le connaissais pas, j'ai découvert. En fait, ce qui est plutôt comment tu vas rendre un culte à Dieu, donc comment tu te mets en position de pouvoir rendre un culte à Dieu et finalement de rencontrer. Mais finalement, tous ces décalogues, quelles que soient les deux typologies, que ce soit morale ou culturelle, en fait, elles sont des règles pour l'homme, pour rendre un culte à Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour vivre correctement finalement, pour être tout simplement. Et du coup, on a un Dieu qui s'intéresse au comportement moral de l'homme. On a une alliance entre tout ce qui est moral et liturgique, donc il n'y a pas une séparation des deux. Et on a une part importante, enfin l'homme a une part importante dans le culte. Donc on n'est pas juste avec un culte pour le Dieu, mais en fait c'est aussi tout l'homme qui vient dans ce culte. Et l'exigence, elle est posée sur lui, pas tellement pas sur Dieu, mais sur lui. Donc l'alliance, elle est bien dissymétrique, mais c'est une alliance quand même. Et donc ça aussi, c'est assez... Voilà, on est bien dans une relation de personnelle, hein, c'est bien une alliance. Et on a une approche éthique très différente des autres religions, où le culte est finalement plutôt une obligation pour obtenir les faveurs du Dieu ou avoir la paix, mais où finalement la conduite de l'homme dans la vie profane ne fait pas du tout partie du domaine religieux. C'est au mieux celui du travail des sages, de donner des conseils pour bien vivre. Et donc, on a des registres qui sont la sagesse plus morale. On a le côté culte qui est vraiment pour Dieu. Et puis ensuite, on a la vie profane de tous les jours. Et quelque part, c'est très dissocié. Et là, on a une unité de tout ça, voilà, puisqu'il prend l'homme dans toutes ses dimensions. Et donc, il n'y a pas de compartiment, quoi. Et c'est une alliance, donc il faut que tout l'être soit pris en compte. Donc ces lois sont données dans le face-à-face entre Dieu et Moïse. Donc c'est pas non plus des tables de la loi qui tombent du ciel, hein. C'est vraiment un dialogue entre Moïse et Dieu. Et c'est la relation individuelle entre Moïse et Dieu s'élargit à tout le peuple, puisque Moïse se fait le messager de Dieu pour redescendre avec les tables de la loi. Qu'est-ce que Dieu a dit ?
Ils ont resté longtemps d'ailleurs sur la montagne.
Ah oui, bah oui. Ils ont eu le temps d'aller faire
le dessin animé dernièrement, justement.
Ils ont eu le temps de faire le Vaudor. Donc,
oui, justement, ils ont eu le temps de faire. Justement.
Bah, ils s'impatientent.
Alors, ils s'impatientent. Ouais. Il s'est mis en colère, il a cassé.
C'est Moïse. Moïse n'était pas très.
Oui. Ah non, mais c'est.
Ouais,
non, pas tendre. Non.
Mais bon, il intercédait pour le.
Oui, d'accord, il intercédait.
Il faisait.
Mais les gens obéissent après.
Il faisait bien le boulot. Alors ensuite, l'autre partie de cette alliance, c'est l'alliance du cœur. Donc là, on est un peu plus tard. On est parti d'Abraham, on a fait Moïse, l'Exode et Moïse. Et on a cette alliance du cœur qui est plutôt avec Osée et ensuite Jérémie. Donc on est un peu plus loin dans le temps. Je vous ai pas remis une chronologie de l'Ancien Testament. Si vous avez une Bible, c'est à peu près... vous avez une chronologie à la fin de la Bible de Jérusalem. En tout cas, il y a une chronologie, mais je pourrais peut-être vous l'apporter pour la fois prochaine, pour savoir dans quel ordre sont les choses. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a un petit paragraphe sur l'histoire. Donc Osée qui est dit « Ainsi donc, voici que je l'attirerai et la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. » Donc là, on a tout le thème nuptial qui ne va pas du tout dans la dimension. Donc tout à l'heure, on a vu que la fécondité... Enfin, Abraham, la promesse d'avoir une descendance n'allait pas du tout dans le registre de la fécondité classique. Et là, de la même façon, le thème des épousailles entre... Donc la transposition entre Osée, sa femme, et Dieu et le peuple... ne tombe pas du tout dans le symbolisme érotique. On est vraiment dans un sujet de relation, de vie à deux. Et comment est-ce qu'on on obtient une union des cœurs, un amour de pure générosité. Donc c'est les débuts de l'amour agapé, qu'on dit, et pas du tout éros, qui est vraiment dans ce don des deux parties, en fait, et des deux personnes pour vivre à Dieu. Donc qui est comment on se donne à l'autre et comment on se reçoit de l'autre. Donc c'est une imagerie qui va envelopper ce qu'il y a de plus élevé dans la religion et dans ce qui est porté par la parole. Et en fait, elle va redescendre, donc elle va irriguer finalement le mariage humain ou le couple humain de toute cette dimension sacrée, quelque part. Et c'est un peu ce qu'on aura dans notre mariage avec le sacrement du mariage, voilà, qui est à la fois la relation entre Dieu et le peuple et comparé à un mariage entre un homme et une femme, et en même temps, c'est en regardant l'union de Dieu et ce qu'il souhaite pour son peuple qu'on peut transposer ça dans le couple pour dire finalement qu'est-ce que devrait être le mariage ou la vie d'un couple. Donc on est bien dans cette double relation. Donc à travers ça, Osée, il introduit aussi une nouvelle notion de péché. Donc on n'est pas dans une histoire de transgression de la règle. Donc, par rapport au code moral qu'on avait eu, qui était « tu ne voleras pas », donc tu ne dois pas faire ce qu'on te dit de ne pas faire. Mais là, on n'est plus tellement là-dedans, on est dans l'infidélité. C'est-à-dire qu'en fait, le manque de réponse à l'amour. Donc on va un cran plus loin par rapport au décalogue, même si c'était déjà en prémisse dans le décalogue. Mais là, on est un cran plus loin, puisque ce n'est pas une question de transgression de loi ou de précepte. On t'a dit, le Dieu a dit ça, et voilà, on n'est pas dans le rapport du petit enfant et de ses parents, on est vraiment dans un rapport de comment est-ce qu'on répond à l'amour de Dieu par un amour fidèle, sachant qu'avec le péché, on n'y arrive jamais, quoi. Seul Dieu est vraiment fidèle jusqu'au bout. Donc Osée est vraiment l'annonciateur de la miséricorde, de l'amour miséricordieux de Dieu, Dieu qui aime son peuple d'un amour dont la générosité immense confond l'imagination. Donc il va largement au-delà de lui donner une loi morale, de le structurer. On est dans vraiment une alliance de cœur et donc dans cet amour donné et qui essaye de susciter chez l'homme le même amour. Alors Jérémie va, enfin à mon avis, encore plus loin, puisqu'il introduit une notion un petit peu individuelle. Donc là, on est personnel au sens un petit peu de ce qu'on avait vu sur Abraham. Donc c'est plus un peuple indifférent, c'est plus l'alliance entre Osée, c'est quand même le Dieu et tout le peuple qui, quelque part, est le... voilà, c'est en tant que peuple. Et donc là, Jérémie, il y met aussi une dimension très individuelle. Donc Jérémie a une vie pas très facile, comme Osée d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Donc Jérémie est exclu de tout. C'est vraiment la personne qui a l'air de souffrir tout le temps. Et en fait, qui s'en remet quand même à Dieu pour... tellement il est... il a une admiration devant Dieu et du coup, il se sent tellement indigne et il voit que les autres sont tellement indignes qu'il essaye de... Mais il traite d'abord finalement son cas à lui, en fait. Donc il essaye de voir comment est-ce qu'on se confie à Dieu, comment est-ce qu'on peut se faire grandir. Et donc Dieu ne demande rien d'autre à l'homme que son cœur et ne propose pas d'autre terme à son action créatrice que la recréation du cœur de l'homme. Donc une phrase de Jérémie, « Tu le sais Seigneur, souviens-toi de moi, prends soin de moi. » Donc il y a cette idée de « j'appelle l'attention de Dieu sur moi ». Parce que seul lui peut m'aider à grandir et m'aider à répondre à son amour. Et puis les très belles phrases sur « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ». Et puis tous les textes sur « Je leur donnerai un cœur qui me connaisse et qui sache que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Donc il y a à la fois la dimension collective et à la fois la dimension individuelle chez Jérémy. Et on est vraiment sur ce cœur à cœur. C'est vraiment inscrit au plus profond d'eux. Donc c'est un Dieu personnel qui va prendre l'homme au plus profond de ce qu'il est dans son cœur. Donc ça, c'était la première partie sur tout ce Dieu personnel et comment est-ce qu'il y a cette relation entre Dieu et nous. La deuxième partie, c'est une autre thématique sur le Dieu, le tout autre. Donc là, on est comment est-ce que Dieu est finalement... on a vu un peu que l'alliance n'était pas égale, qu'elle était disproportionnée. Mais là, on a vraiment le Dieu qui dépasse, qui est le tout autre. Et qui, là encore, est très différent des dieux des autres religions, où il y avait énormément de transpositions. Je prends les dieux Zeus et compagnie, par exemple. Enfin, voilà, c'était quasiment... ils avaient les mêmes mœurs et les mêmes habitudes et les mêmes problématiques que les hommes. Donc on transpose juste et on fait vraiment de l'anthropomorphisme complet, quoi, quasiment. Alors que là, dans le Dieu tout autre, on n'a pas du tout ça. Donc il y a une vraie distance. Dieu, il est tout autre. Il est différent. Alors déjà, il est maître du cosmos. Bon, ça, c'est plus classique par rapport à d'autres dieux. Mais il intervient quand même sur des tas de phénomènes impressionnants. Voilà, il est le créateur. Tout ce qui lui plaît, il le fait, nous dit le psaume 135. Mais quand on voit, bon, le déluge, mais les 12 plaies d'Égypte surtout... on a vraiment des phénomènes qui nous montrent la puissance de Dieu. La phrase du psaume 136, quand ils ont traversé la mer Rouge, « Dieu a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. » Voilà, il y a cette dimension extrêmement puissante d'un Dieu qui est tout puissant et qui peut intervenir sur tout. Voilà, et qui est vraiment très présent. Mais là, on n'est pas encore sur des spécificités très fortes. C'est très marqué, mais ce n'est pas une spécificité... Si original que ça. Alors, ce qui va vraiment poser le Dieu tout autre avec une très très grande originalité, c'est le nom, la révélation du nom divin dans le buisson ardent. Donc, à son peuple Israël, Dieu s'est révélé en lui faisant. Je vous lis, c'est un passage de. Pourquoi j'ai pas mis la référence ? Beaucoup de choses de ce que j'ai mis là sont inspirées de la Bible et l'Évangile de Louis Bouillet. Et puis après, il y a d'autres passages aussi, d'autres références que j'ai mis par ailleurs. Alors, à son peuple Israël, Dieu s'est révélé en lui faisant connaître son nom. Le nom exprime l'essence, l'identité de la personne et le sens de sa vie. Dieu a un nom, il n'est pas une force anonyme. Livrer son nom, c'est se faire connaître aux autres, c'est en quelque sorte se livrer soi-même en se rendant accessible. Et donc, on rend l'autre capable d'être connu plus intimement et d'être appelé personnellement. Donc, quand Dieu s'est révélé, il s'est révélé progressivement et sous divers noms à son peuple, les premiers Abraham quand ils étaient des stèles, Dieu de la montagne, le Dieu éternel, le Dieu, voilà, c'était déjà des noms de Dieu, mais c'était pas directement Dieu qui se présentait finalement avec qui je suis. Donc la vraie révélation du nom divin, elle est faite à Moïse dans le buisson ardent. Au seuil de l'Exode et de l'Alliance du Sinaï qui s'est avérée être la révélation fondamentale pour l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc c'est vraiment le cœur, s'il y a une chose dans l'Ancien Testament qui est majeure, c'est vraiment cette révélation du puissant ardent « Je suis ». En tout cas sur notre sujet de qui est Dieu et comment ce Dieu se révèle, c'est un des endroits les plus importants.
Mais les autres prophètes, ils entendaient Dieu quand même, le message de Dieu, ils le disaient. Donc évidemment, il y a Moïse, il y avait le buisson ardent où justement les tables ont été... Il reste très important de ça. En fait.
Ah non, le buisson ardent, c'est vraiment la révélation du nom. C'est Moïse qui arrive, qui voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Il s'approche, il lui dit « Enlève tes sandales puisque c'est un lieu, tu foules un lieu saint. » Donc il se rend compte que Dieu est dans le buisson ardent. Et là, il y a tout un dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse qui gardait les troupeaux parce qu'il avait fui l'Égypte, parce qu'il avait tué quelqu'un. Et donc il avait qu'une peur, c'était de se faire rattraper. Donc ça faisait belle lurette qu'il était parti dans le désert chez Jéthro et qu'il s'occupait du troupeau de Jéthro. Et là, donc Dieu l'interpelle et lui dit « Bon, voilà, donc tu vas retourner en Égypte et tu vas aller dire aux Israéliens, alors que Moïse était rien, tu vas leur dire qu'ils vont partir d'Égypte. » et que je serai leur Dieu, et voilà. D'accord. Et donc Moïse dit, qu'est-ce que je vais raconter aux Israéliens Comment est-ce que... Voilà, exactement. Et donc c'est là, à ce moment-là, que Dieu dit, je suis. Alors il y a plusieurs façons de traduire. Ouais. C'est je suis, ou je suis qui je suis. Donc on a plusieurs manières de le comprendre. Il y a une manière qui est dire, je ne veux pas donner mon nom, donc je dis, enfin, je botte en touche un peu. L'idée, c'est de, quand on donne son nom, on donne à l'autre la mainmise sur soi, finalement, quelque part. Donc, on se rend vulnérable en donnant son nom, puisqu'on dit qui on est. Donc, il y a quelque chose de dire, non, Dieu est au-delà de ce qu'on peut... On ne peut pas mettre la main sur lui. Et il est au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui. Donc, il a un nom qui est ineffable, qui est incompréhensible. Donc, ça, c'est de l'apophatique. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas très douée en théologie, surtout les termes philosophiques. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, qui est plutôt de dire, je suis celui qui fait être. Donc, c'est vraiment de dire que, finalement, il est l'être dans tout son jaillissement, dans toute la réalité de l'être. Lui seul est être, en fait. Et donc là, on est plutôt sur l'ontologique, l'essence de Dieu, qui je suis au sens, c'est quoi mon être, voilà. Et du coup, c'est d'être vraiment et d'être la source de l'être. Voilà. Ça, j'ai mis super ontologique parce qu'on est même au-delà de l'ontologie. Voilà. Et donc, donc dans cette révélation, on a un nom qui est à la fois un nom sur lequel on peut dire quelque chose, qui dit quelque chose de Dieu, et en même temps un nom qui n'est pas du tout un vrai nom, enfin qui est un nom qui dépasse l'entendement. Voilà. Et donc je pense quand Moïse a été voir les Israéliens pour leur dire « Je suis » m'a dit de vous dire qu'on allait sortir d'Égypte. Je ne sais pas comment les Israéliens l'ont pris, mais ça devait être intéressant le dialogue. On n'a pas beaucoup de retour là-dessus. Paysage ou pas. Voilà. Et donc on a un Dieu qui est... se pose là, enfin voilà, donc je me suis dit, se pose un peu là. Et vraiment, il y a une idée de, voilà, il y a une sorte de présence. On n'est pas sur un Dieu, une force, quelque chose de diffus, qui a aucune prise. On a un Dieu qui se pose là, je suis. Voilà, donc il y a une vraie réalité. Il est à la fois transcendant, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il a un nom qui fait plutôt penser au principe, à la source de l'être, mais il n'est pas du tout évanescent. C'est vraiment un Dieu qui est là. Voilà. Ensuite, il y a une autre partie sur le nom, enfin, après le nom divin, c'est un seul Dieu. Donc en fait, dès le début, on n'a pas un Dieu qui a déjà son principe féminin avec lui, ce qui était assez classique quand même. Donc là, il est tout seul, il n'y a pas de principe féminin. Dans un premier temps, en fait, on voit que on essaye juste de créer un décalage en disant que Dieu, le Dieu... donc Yahvé, qu'on n'est pas censé prononcer, est au-dessus des autres divinités. Donc on n'est pas sur un seul dieu, on est plutôt sur il y a un vrai dieu et puis il y a les autres, c'est des petits dieux, quoi, enfin des pas grand-chose. Donc il y a tous les textes, je vous ai mis quelques références sur Genèse 31, etc., où Rachel en fait dérobe les idoles domestiques qui appartenaient à son père quand elle part avec j'ai perdu son nom. Bon.
Jacob.
Jacob,
oui,
je pense. Oui, Jacob. Tout d'un coup, j'avais un doute. Merci. Donc, Jacob. Et du coup, elle emporte les idoles domestiques de son père. Parce que là, on a besoin. On voit qu'il y a une sorte de proximité entre les différents cultes, parce qu'ils sont pas complètement. Il n'y a pas qu'un seul dieu. Mais quand même, globalement, c'est le seul dieu et le seul auquel il est permis de rendre un culte. Donc, on a une sorte de coexistence qui vit un peu pendant un temps. Et puis après, il va y avoir, un peu plus loin, il va y avoir un seul Dieu. Donc là, c'est d'abord, c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en est pas d'autre. Dans Isaïe 45, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. » Isaïe toujours 43, 10, « Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas. » Et dans le psaume 113, idoles, or et argent, leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, donc elles ne sont pas, voilà, elles sont pas capables de faire quoi que ce soit. Et puis Élie sur le mont Carmel qui fait bien comprendre aux prêtres de Baal et donc à tout le peuple qui adorait les Baals que ce n'est pas des dieux, ils ne font rien, ils ne sont même pas capables de mettre le feu au sacrifice. Donc on a petit à petit cette affirmation d'un seul dieu. Mais l'idée c'est d'abord de montrer, non pas d'abord que c'est un seul dieu au même registre que les autres en disant il y en a un qui est mieux que les autres, mais c'est d'abord de le distinguer comme un dieu différent et après de dire en quoi est-ce qu'il se détache et en quoi est-ce que les autres ne sont pas des dieux en fait. Voilà. Donc c'est plutôt ça le mouvement. Le fait qu'au début il y a très peu d'anthropomorphisme justement pour bien montrer qu'il est différent, qu'il n'est pas du même registre, qu'il est pas assimilable à ce que les autres pensaient du dieu. Et quand c'est un peu plus ancré que ce dieu-là est différent, et voilà, là on peut reparler de la main de Dieu, on peut reparler de... Voilà, il y a un certain nombre de phrases qui peuvent penser à de l'anthropomorphisme. Enfin, ça reste assez réduit. Bon, c'est la parole qui est essentiellement l'attribut de Mela, qui est de toute façon l'attribut de Dieu. Alors après, il y a tout un passage, donc là on est chez Amos, qui est sur la justice de Dieu. Donc là, la justice de Dieu, ça nous montre aussi un Dieu qui juge, donc il est quand même au-dessus des choses. Voilà. Donc en fait, quand Amos fait entendre la parole de Dieu, il y a un vrai attente du jugement divin. Simplement, le jugement divin qu'ils attendaient, là encore, ils se trompent un petit peu de voie, parce que les Israéliens, ils pensent plus à une revanche contre leurs adversaires et à une victoire politique. Or, en fait, la justice de Dieu, c'est pas du tout de ce registre-là. Donc, en fait, Amos va un peu renverser leur vue terrestre en disant, bah, finalement, malheur à ceux qui désirent le jour de Yahvé. Il sera ténèbres et non pas lumière. Donc, voilà, il évite qu'Israël confonde la justice de Dieu avec sa propre cause. C'est d'abord des ténèbres, c'est d'abord des choses incompréhensibles. Voilà. Et ce ne sera pas une partie de plaisir, d'abord. Donc en fait, il essaye de faire prendre conscience au peuple que c'est pas tant que l'alliance qu'il a eue entre le peuple et le Seigneur, c'est pas d'abord une alliance qui lie le Dieu au peuple, ce qui est une vision très justement des autres religions, c'est comment ramener le Dieu vers chez moi pour qu'il me défende, qu'il me protège, etc. C'est pas du tout ça. En fait, l'alliance, c'est d'abord une exigence du peuple qui lie le peuple à Dieu. Donc en fait, toute l'exigence repose sur le peuple. Et Dieu l'accompagne là-dedans, mais finalement, c'est pas dans l'autre sens, quoi. Donc ça, toutes ces histoires de thématiques de justice, ça va donner, ça va permettre de clarifier ce point. Et donc, c'est d'abord l'exigence de justice, elle est liée aux promesses de la parole, mais elle s'applique d'abord à ceux-là même qui ont reçu ces promesses. Et donc, il annonce plutôt la destruction. Amos, c'est quand même pas un... pas être un très rigolo. Enfin, bon, tous les prophètes sont pas très rigolos, en fait.
Ah oui, c'est...
C'était des personnes assez... Mais je pense qu'ils avaient une forme d'exigence et de sentir l'exigence et l'urgence de dire qu'on n'est pas du tout au niveau et qu'il faut qu'on se bouge, quoi.
Oui, c'est la guerre, hein, la guerre,
ouais. Donc, c'est une responsabilité qui suppose de reconnaître ses iniquités, de se tourner vers Dieu. Donc, on a de nouveau le thème de la miséricorde. Cherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et qu'ainsi le Seigneur soit avec vous. Donc c'est pas on ne met pas Dieu dans sa poche en lui rendant un culte, c'est en faisant le bien qu'on a des chances, si on aimait Dieu, qu'on a des chances de pouvoir être aidé par Dieu. Voilà, donc on démarre par une religion de crainte, qui est le premier pas pour dépasser les vues humaines, et c'est seulement avec elle qu'on accède au surnaturel, et à ce moment-là on peut passer dans un degré supérieur avec la conviction de l'amour divin, mais il y a toujours ce passage par la crainte. Et en fait, tout l'Ancien Testament a été assez vigilant à bien mettre dans l'étape d'abord la crainte avant l'amour miséricordieux et finalement pour ne pas la fadir et qu'il soit positionné correctement. Structurellement, j'ai mis Amos Osée dans la première partie, mais en fait Amos et Osée sont à peu près de la même période, 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a le Dieu de justice d'Amos et juste après on a le Dieu de miséricorde d'Osée, mais finalement qui travaille sur les mêmes thèmes avec une vue un peu différente. Ensuite, le Dieu saint. Donc là, on passe à Isaïe. Donc là, Isaïe, il nous fait un vrai approfondissement de qui est Dieu, avec une des notions les plus élaborées, la plus transfigurée, la plus approfondie sur Dieu, avec ce thème de la sainteté de Dieu. Donc la sainteté était souvent comprise comme une simple pureté morale parfaite, et même à l'heure actuelle, on dit « tu n'es pas un saint », et on pense souvent à cette perfection morale. En fait, l'aspect moral n'est pas du tout, c'est pas du tout d'abord ça le sujet, voire même il n'y avait pas du tout d'aspect moral dès le début. En fait, la sainteté de Dieu, c'est juste cette transcendance de Dieu qui fait qu'il y a un refus de toute familiarité, de tout sans gêne, de la part de Dieu avec la part de Dieu un être du donc on est dans la disproportion et donc c'est l'absence de familiarité. Dieu saint, ça avait aussi l'idée de séparation. Voilà. On est sur un autre registre, un autre plan. Donc c'est d'abord ça et donc on n'a pas de prise sur Dieu et il n'y a quasiment pas d'autre attitude que le respect. Alors le respect, la crainte, l'amour, enfin voilà, donc, mais dans toutes ces dimensions et finalement avec ces nuances-là. Non seulement on ne peut prétendre se servir de Dieu, mais on ne peut prétendre le toucher, s'en approcher, pas même le voir. Donc ça, c'est la vision d'Isaïe quand il dit « Saint, 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 le Seigneur de l'univers », il voit ces anges, etc., qui louent, qui rendent gloire à Dieu, et il dit « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers ». Et donc on est vraiment sur, je suis complètement indigne juste de poser les yeux, voire même de le voir. Et on a tout le thématique de « qui voit Dieu meurt », parce qu'en fait c'est un peu souvent cette thématique-là. Et on a Élie qui se voile la face pour avant que, parce que Dieu va passer, il y a le buisson ardent, il enlève les chaussures. Voilà, il y a toujours ce côté, voilà, donc on ne peut pas mettre la main sur Dieu, il est transcendant, il est au-delà. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans l'Ancien Testament, l'essentiel des choses n'est pas de voir Dieu, parce que ça, ce sera la béatitude finale, et finalement, ça a demandé beaucoup de choses pour que ça chemine dans ce sens-là. Voir Dieu n'est pas d'abord un objectif, mais c'est écoute, voilà, écoute Israël. Donc c'est d'abord l'oreille qui peut faire les choses, parce qu'elle, justement, elle garde cette distance. Voilà, contrairement à l'œil qui met la main sur les choses. Donc c'est l'oreille qui est privilégiée dans le rapport à Dieu. Donc Dieu est transcendant, mais sa sollicitude reste, qui enverrai-je ? Voilà. Alors on n'a pas du tout le mot transcendant dans la Bible, on n'est pas sur un traité spéculatif, je recommence, on est sur un événement qui raconte des histoires et comment ça s'est passé. Mais par contre, on a souvent la transcendance peut être perçue ou insinuée par les expressions aux cieux des cieux, et aussi par toutes les fois où à la place de Dieu, on parle de l'ange du Seigneur. Voilà, que ce soit une nuée, et dans le même texte vers Exode, là, où une phrase, il y a le Seigneur, et puis la phrase d'après, c'est l'ange du Seigneur, et puis après, c'est le Seigneur. Donc il y a cette flou un petit peu sur le personnage, l'ange du Seigneur permettant de créer une sorte de filtre et de pas trop assimiler Dieu à des choses qui pourraient le ramener vers l'homme et être trop anthropomorphique. Voilà, donc Dieu reste caché. C'est toujours un Dieu qui est caché et pourtant qui parle et qui intervient. De l'idée d'une majesté royale incomparable, la vision rapproche d'abord celle de la gloire. Donc on a toute la thématique après la sainteté de la gloire. Les deux ne sont pas complètement étrangers et sont assez une sorte de registre commun. Tout ce que Dieu touche reflète cette gloire. Elle est comme sa signature sur les choses et les êtres qu'il a fait sien. C'est très symptomatique de voir Moïse, après avoir eu ces grandes discussions sur la montagne avec Dieu, qui, quand il redescend, il a le visage complètement irradié, qui d'ailleurs fait peur aux Israéliens qui sont en bas, d'abord parce qu'ils ont fait des bêtises, mais aussi parce qu'ils voient Moïse qui redescend avec quelque part porteur de la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment le messager de Dieu qui devient presque, qui incarne presque cette gloire. Parce que Dieu est saint, il peut pardonner à l'homme qui se découvre pécheur devant lui, parce qu'il est le tout autre, parce qu'il est au-delà de ce qu'on peut voir, et parce que cette alliance, de toute façon dissymétrique, c'est comme ça que lui, il l'a voulu, et donc il se met quelque part, d'une certaine façon, à notre service, et donc il va, c'est lui qui vient nous pardonner, qui vient nous relever de nos fautes. Donc là, on a tous les débuts sur le salut, évidemment, il y a toujours cette thématique de salut qui intervient, mais c'est parce que Dieu est le tout autre et saint qu'il peut intervenir chez nous, qu'il peut quelque part se compromettre avec sa créature parce qu'il ne sera pas assimilé, parce qu'il est vraiment le tout autre. Et du coup, ça lui permet de pouvoir assez tranquillement venir en humanité. Et c'est ce qu'on verra encore plus dans l'incarnation. Voilà, c'est ce côté, il n'y a pas de commune mesure. Et pourtant, du coup, il peut être vraiment tout proche de nous. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le sang. Donc il y a toujours cette différence ontologique qui reste. Alors ensuite, la troisième partie, c'est Dieu qui vient demeurer. Donc on a vu que Dieu était personnel, Dieu est en relation avec, il parle, il écoute, il intervient, il agit. Dieu est le tout autre, il se fait connaître quand même, donc il s'est fait révéler dans beaucoup de choses à des prophètes. Mais on a un Dieu qui, au-delà de ça, qui vient demeurer, il vient de notre côté, il vient jusque chez nous, et même dans l'Ancien Testament, donc avant même l'incarnation. Alors déjà, on a la présence divine dans les éléments. Donc déjà, Dieu, quelque part, s'incarne, si on peut dire. Enfin, bon, en tout cas, se dépose dans des éléments comme la nuée, le buisson ardent, voilà. Mais je pense que la nuée, ce qui est le plus symptomatique, donc le Seigneur allait devant eux pour les guider dans leur chemin, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Donc on a de nouveau le thème du Seigneur et de l'ange du Seigneur, qui permet de représenter Dieu transcendant. Donc on a bien cette côté, il est présent dans la nuée, comme il a été présent dans le buisson ardent, quelque part. Donc c'est une vraie présence qui est localisée, quoi. C'est pas ectoplasmique. De nouveau, on a un Dieu qui avec qui on peut rentrer en relation et qui s'incarne dans quelque chose. Enfin, on peut pas parler d'incarnation, mais qui se manifeste dans des éléments. Dieu parle directement à Moïse. Donc il ne l'est pas tant par un privilège que pour épargner au peuple entier le contact effrayant avec celui qui est le maître de l'orage sacré. Ça, c'est vraiment l'idée que, en fait, de nouveau, c'est une responsabilité. C'est pas qu'il est élu, Moïse, c'est qu'il a la responsabilité de porter pour le compte du peuple. Donc il se manifeste, Dieu se manifeste dans des éléments, par contre dans une manifestation extraordinaire. Donc c'est toujours des choses un petit peu qu'on n'a jamais vues, donc on a du mal à décrire. Le feu du buisson ardent, ce feu qui ne se consume pas. Voilà, la nuée de l'Exode qui est compliquée. La nuée sur la montagne qui est aussi une sorte de, pareil, ténèbres et de lumière, on ne sait pas trop. Voilà, donc on a déjà la présence divine qui vient dans un certain nombre d'éléments. Puis après, ça va se préciser avec l'attente du rendez-vous. Donc, Dieu accompagne, a créé ce peuple, et ce peuple est un peuple nomade. Et donc Dieu va quelque part le conserver par sa présence. Donc il demande à Moïse de lui préparer une tente en plus pour lui. Et Moïse dresse la tente pour que la présence vienne habiter dans cette tente et cheminer avec eux, avec le peuple. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Alors dans la tente, on a l'arche. Alors l'arche, on a quelques descriptions, notamment dans les nombres. Donc l'arche, c'est en fait comme une sorte de coffre, de petit coffret, avec deux chérubins qui encadrent, donc comme s'il y avait un petit coffre, et puis deux chérubins qui étaient là. Et il y a des barres, parce que l'idée, c'est de rester nomade, donc on a les barres amovibles pour porter l'arche d'alliance, et donc qu'elle soit déplaçable. Voilà. Et en fait, Dieu, il repose dans l'espace entre les deux chérubins. Donc il est dans le vide, en fait. Donc c'est l'espace vide qui est comme si l'arche d'alliance était un trône, les deux chérubins qui encadrent, et puis finalement Dieu, il est là, et en même temps il est pas là, puisque c'est l'endroit où c'est vide. Donc c'est vraiment donc c'est la Shekinah, ce qu'on appelle, qui veut dire demeurer comme sous une tente. Donc c'est cette idée là et ainsi on a vraiment l'arche qui est vraiment le trône du Dieu invisible. Et donc c'est à la fois une présence complètement réelle et en même temps complètement... on va mettre la main dessus, quoi. C'est du vide. Donc on a toujours cette transcendance et en même temps cette liberté. Alors dans l'arche ensuite, dans le petit coffret, on va loger les tables de la loi ainsi que la manne. Voilà, donc c'est l'idée de la parole divine qui se donne, donc qui est aussi quelque part une manifestation et une présence de Dieu et qui manifeste l'alliance. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu reste libre par rapport à cette présence. Donc à la fois il demande l'attente et finalement il accepte de demeurer avec son peuple, comme eux nomades, mais en même temps il n'est pas du tout, il ne se laisse pas du tout enfermer là-dedans. Et donc c'est intéressant de voir quand Israël avait peur des Philistins, et donc il a décidé d'emmener l'arche sur le champ de bataille en se disant, comme ça le Seigneur va nous protéger. Donc il a pris l'arche pour un gris-gris, ce que Dieu n'a pas du tout apprécié. Donc en fait ils ont perdu et les Philistins se sont emparés de l'arche d'alliance. Donc bien évidemment, Dieu, à ce moment-là, il était parti. Il n'était pas resté bêtement... il fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc il a une certaine liberté par rapport à ça. Donc il ne se laisse jamais posséder. Donc voilà, c'est pas comme un Dieu qu'on enferme dans un temple. Pas du tout. Il est largement au-delà, même s'il accepte de demeurer pour être assez rigolo de lire le texte avec cette histoire des Philistins, là. Puis après, les Philistins, ils se font, par contre, ils ont plein de problèmes parce qu'ils ont l'arche chez eux. Et du coup, donc du coup, ils disent, on vous le rend. Parce qu'on va sinon mourir. Donc, on passe le peuple ensuite se sédentarise. Et donc, on va passer de la tente au temple. Alors, pareil, c'est Dieu qui garde la main. Donc, il y aura d'abord des sacrifices pèlerinage, on va dire, à Silo d'abord, puis ensuite à Jérusalem. L'idée, c'est que le peuple va faire une expérience durable en ayant cette présence de Dieu au milieu de lui. Mais c'est Dieu qui garde l'initiative, donc ce n'est pas David qui va construire le temple, parce que David dit, je vais te construire une maison. Il dit, non, ce ne sera pas toi, c'est moi qui vais me construire une maison. Donc du coup, je construis d'abord ta descendance Salomon, et c'est Salomon qui me construira un temple. Voilà, donc c'est toujours Dieu qui garde l'initiative. De la même façon, on a le parallèle avec Dieu qui a consenti à la monarchie. Alors Samuel a commencé par un bon discours anti-monarchique. Et puis quand le peuple a dit, mais si on veut absolument un roi pour être comme les autres, donc Dieu a consenti au roi, et il a effectivement eu un, donc il lui a donné quelque part son aval, et c'est devenu un de ses porteurs, entre guillemets. Mais pareil, quand Saül a désobéi ou n'a pas fait ce qu'il fallait, il lui a retiré sa protection, enfin son habitation, et il est allé chez David. Donc on a toujours cette liberté par rapport à cette présence du Seigneur. Donc on pourrait se dire qu'avec le temple, ça y est, tout est bon. On a une place on a un magnifique temple pour le Seigneur. Donc il est là, il nous protège, on a une terre, etc. Et donc le nom du Seigneur a une demeure sur terre. C'est dans 1 Roi 8:29. Voilà. Donc on pourrait se dire, c'est bon. Mais non, parce que Dieu n'a d'abord une demeure qu'au ciel. Et ensuite, cette présence, elle est toujours dans un monde pécheur. Donc en fait, ce n'est pas l'aboutissement de tout. Du coup, il y a la très belle prière de Salomon quand il inaugure le temple. Il y a une prière, la prière qui est faite pour le temple, qui dit « Le Seigneur veut demeurer dans l'obscurité ». Donc il y a toujours ce côté où on n'arrive pas quand même à mettre la main sur lui, ce que Salomon dit. Mais donc Dieu, de toute façon, ne va pas demeurer là, parce que ce n'est pas du tout l'aboutissement de l'histoire. Ce n'est pas de faire un temple et puis d'avoir un peuple juif qui est le peuple de Dieu, qui est protégé. C'est pas du tout ça le dessein de Dieu. C'est vraiment le salut jusqu'au bout, et donc le salut du péché. Et donc du coup, il va y avoir toutes ces Ézéchiel, donc là on qui va pronostiquer la destruction du temple, donc que tout va se voilà, que ce nom, le Seigneur n'est pas fixé pour toujours dans le temple de Salomon. Le temple sera détruit, Sion sera vaincu. Israël, le peuple, va être dispersé, et finalement la Shekina va déserter le sanctuaire, et les habitants sont envoyés en exil. Donc on a de nouveau la présence qu'on pensait stable, qu'on pensait pérenne, qu'on pensait constitutive du peuple de Dieu, qui finalement, de nouveau, c'est tout par terre, et à chaque fois c'est pour une présence meilleure. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois il y a une promesse de quelque chose d'encore mieux. C'est qu'on n'a pas tout bien perçu, tout bien compris, et qu'il y a toujours cette liberté souveraine de Dieu qui veut aller au bout des choses aussi. Et donc c'est toutes les visions d'Ézéchiel, c'est la vision d'espérance de la présence glorieuse sur laquelle se clôt le livre d'Ézéchiel. Donc là on est sur toute la description de la Jérusalem céleste, finalement, l'Israël nouveau, où il n'y aura pas seulement d'ailleurs les Israélites, mais tous les étrangers. Donc c'est vraiment la vision qu'on va retrouver après dans les livres apocalyptiques et dans l'Apocalypse, qui est la vraie Jérusalem, et donc le vrai temple, qui sera même plus un temple, mais qui sera directement le Seigneur, et donc après l'incarnation, Jésus. Et on finit par les très beaux textes d'Ézéchiel, sur « Je mettrai en vous mon esprit », donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'Esprit Saint, comme promis, même si la Shekina, c'est déjà une présence très liée à l'Esprit Saint. Et en fait, ce qui se déployait dans le temple, ce qui se déployait finalement en extérieur, donc dans la tente, dans le temple, toutes ces choses qui étaient finalement à l'extérieur, ça va être dans le cœur de l'homme. Donc là, on rejoint un peu la thématique d'Osée, mais qui était et de Jérémie, mais qui était plus dans le cœur à cœur, dans la relation. Là, on est dans Dieu, il est en nous, en fait. Donc il vient habiter, demeurer en nous. Voilà. Et donc ça s'intériorise complètement en nous, et donc à la fois individuellement et collectivement, puisqu'on est toujours dans dans ces deux parties, en fait. C'est à la fois chaque personne et à la fois le peuple. Et donc, ça, la présence sera... Israël, que la présence avait délaissé et qui en est mort, sera non seulement ranimé, mais appelé à une vie supérieure, à la participation de la vie même de Dieu, non plus seulement avec lui, mais en lui. Donc, il y a vraiment cette habitation de Dieu. Alors, très rapidement sur la conclusion, puisque je suis en retard. Donc on voit que Dieu se révèle un Dieu personnel qui intervient, qui parle, qui promet, qui chemine, qui accompagne. Et en même temps, il est justice et miséricorde, il est le Dieu trois fois saint. Et en même temps, il vient demeurer chez les hommes. Et donc, il n'a pas peur de la proximité de l'homme, il s'approche, il vient dans notre cœur, et c'est vraiment les prémices de l'incarnation. Donc, on voit comment l'Ancien Testament prépare finalement l'incarnation, comment il nous dit des choses déjà de la demeure de Dieu parmi les hommes. Et quand on voit le texte de Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, c'est vraiment l'expression. Traduction par il a demeuré, mais c'est en fait il a planté sa tente. Donc on est exactement comme dans le peuple d'Israël, il vient planter sa tente chez nous. Et c'est à la fois individuel et collectif. Et dans l'Apocalypse, la cité sainte où confluent toutes les nations est une personne vivante, l'épouse de l'agneau. Et cette cité est appelée la demeure de Dieu avec les hommes. Donc cette idée de demeurer. Et donc on a éminemment dans tout cet Ancien Testament, mais on verra aussi après dans le Nouveau Testament, cette intégrité entre à la fois un Dieu qui est tout autre et sur lequel on ne peut absolument pas mettre la main et qui en même temps est tout proche. Donc on est vraiment dans le très juste équilibre entre transcendance et immanence et vraiment dans le... Voilà, très bien articulé. Et chaque fois qu'il y a un prophète qui est un petit peu plus sur un côté, il y a le prophète d'après qui est un tout petit peu plus sur l'autre côté, juste pour à chaque fois, comme si on s'approchait de plus en plus du mystère de Dieu. Alors je vous ai fait une dernière partie que je ne vais pas commenter. Mais qui vous donnera quelques billes sur l'historicité. Parce que l'Ancien Testament, on voyait bien que c'est une histoire d'événements. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un événement fondateur. Le buisson ardent, s'il n'y a pas eu vraiment le buisson ardent, s'il n'y a pas eu vraiment l'exode, s'il n'y a pas eu des choses comme ça du peuple, notre foi, quelque part, se révèle, on peut dire, comme s'il n'y avait pas la résurrection. Enfin, c'est vraiment une histoire d'événements, et donc, il faut qu'il y ait une certaine historicité. Alors après, bien évidemment, c'est pas Abraham qui a écrit... Deutéronome, hein, on est bien d'accord, il n'a pas écrit à cette époque, donc il y a forcément du décalage dans le temps. Mais j'ai essayé de vous mettre des exemples, de montrer que voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont difficiles à soutenir d'un point de vue historique, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont soutenables d'un point de vue historique. De toute façon, on parle d'un ancien temps où c'est compliqué de mettre historicité. En fait, on démarre vraiment l'historicité au sens un peu moderne du terme à partir du 7e siècle avec Josias. Perdu, qui est vraiment un personnage historique, qui est documenté, etc. L'exode, l'exil. Pourquoi je vous ai mis un... Et pas l'exode, c'est l'exil. Je vous ai mis des bêtises, là. C'est l'exil, là. C'est pas du tout l'exode. Donc là, on est au 16e siècle, et là, c'est beaucoup plus... À partir de là, il y a plus de documents historiques. Avant, c'est difficile. Bon, il y a quelques contradictions avec l'histoire des chameaux et des choses comme ça, qui n'existaient pas au temps d'Abraham. A priori, ils sont arrivés que plus tard. Dans le coin, voilà, donc il y a des choses comme ça, mais comme ça a été écrit a posteriori, chacun a pu projeter aussi ces choses, donc il y a cette idée de maturation et en même temps de transmission un peu orale et d'un fil qui fait que le fil ne se rompt pas en fait, voilà, donc c'est pas juste tiens je raconte un événement, je me refais des histoires, mais voilà, donc je vous ai mis quelques pistes là, mais on va pas les lire, puis je suis absolument pas une spécialiste de l'histoire, j'ai essayé de reprendre quelques notes à partir de ce qu'on a dit de Père Giton, parce que pour le coup, vraiment je ne connais pas. Puis en plus, il y avait beaucoup de controverses. Ça a beaucoup changé sur les 40 dernières années entre la façon d'interpréter la Bible et la relation historique. Donc du coup, je ne suis absolument pas, je suis pas à jour, donc je pourrais vous dire des bêtises. Par contre, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Et peut-être que le plus intéressant, c'est ce que je vous ai mis tout à la fin. En fait, on voit qu'il y a à Silo, c'est là qu'on gardait les événements de Moïse. Donc c'est d'abord passé par le nord, en fait, où il y avait Élie, qui était à Silo. Et on voit que quand David installe l'arche à Jérusalem, en fait, il prend des prêtres, dont l'un était un proche de Élie. Donc il y a une sorte de continuité dans la transmission. Et donc quand il raconte comment était la Shekinah ou comment était l'Exode, il y a des choses qui sont transmises de... prêtre en prêtre, on pourrait dire presque, prophète en prophète. Voilà, donc il y a quand même ces choses-là qui nous montrent une certaine transmission. Et après, il faut vraiment y aller, je pense. Donc, ouais.